Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous attaquons la 5e symphonie de Beethoven. Il était temps, n'est-ce pas ? Pa-pa-pa-pam ! Non seulement c'est la plus connue des 9 symphonies du grand Ludwig, mais c'est incontestablement la plus connue des dizaines de milliers de symphonies qui ont été écrites depuis maintenant presque 3 siècles. L'inachevé de Schubert, la symphonie fantastique de Berlioz ou encore la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak ne sont sans doute pas loin derrière sur le podium. Mais la 5e, ça reste la 5e. C'est tout de même la symphonie qu'on a choisi d'envoyer dans l'espace en 1977, vous vous rappelez, à bord des 2 célèbres sondes Voyager, gravées sur un disque aux côtés de photographies de l'environnement et d'enregistrements sonores représentant les sons de la Terre, un disque censé survivre pendant plus d'un milliard d'années, c'est ce que nous avait promis à l'époque la NASA. Mais bien avant la conquête de l'espace, la 5e symphonie de Beethoven avait déjà conquis ses auditeurs. Et comme l'écrivait si justement le compositeur romantique allemand Robert Schumann, si souvent qu'on l'entende, la 5e symphonie exerce sur nous une puissance invariable, comme ces phénomènes de la nature qui, si fréquemment qu'ils se reproduisent, nous remplissent toujours de crainte et d'étonnement. Il ne nous reste donc plus maintenant qu'à essayer de comprendre le comment et le pourquoi d'un tel chef-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle nous serons cette semaine et la semaine prochaine en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et nous aurons le plaisir de cheminer ensemble, exemple après exemple, mouvement après mouvement, pour tout comprendre et tout entendre de ce renversant chef-d'œuvre. C'est la jeune chef d'orchestre allemande Corinna Niemeyer qui est à la baguette et c'est l'occasion pour moi de la remercier et de remercier tous les musiciens de ce magnifique Orchestre Philharmonique de Radio France pour leur engagement et leur fidélité. Car avec la 5e symphonie de Beethoven, c'est tout de même la 31e clé de l'orchestre que nous aurons réalisée en 15 ans, en collaboration avec France Inter, France Musique, France 2, France 5 et nos amis belges de la RTBF. Alors la clé de l'orchestre que vous allez avoir le plaisir d'entendre maintenant a été enregistrée le 10 octobre 2020. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'étais assez inquiet à l'idée de retrouver un orchestre dont tous les instrumentistes à cordes étaient masqués, comme bien sûr chaque personne présente dans le public. Mais dès que la chef d'orchestre a levé sa baguette et qu'on retentit les fameux 4 coups du destin, je peux vous dire que tout le monde dans la salle avait oublié cette histoire de masque, emporté par l'incroyable puissance d'une symphonie qu'on croit déjà connaître, mais dont chaque audition révèle de nouveaux secrets. Nous voici maintenant dans l'auditorium de la Maison de la Radio. L'orchestre vient de s'accorder. La chef d'orchestre Corinna Niemeyer traverse rapidement le plateau sous les applaudissements du public. Salue le violon solo et, sitôt installé à son pupitre, lève sa baguette avec fougue et détermination.
Beethoven, 5e symphonie, début du premier mouvement, l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Corinna Niemeyer. Bonsoir. Alors, une chose est certaine, la 5e symphonie, c'est la symphonie la plus connue de toute l'histoire de la musique. Et puis, c'est aussi l'emblème de la musique de Beethoven. Alors certes, Beethoven a composé beaucoup d'autres œuvres, 8 symphonies, en plus de la 5e, une dizaine de concertos, 32 sonates pour piano, des quatuors, des trios, un opéra. Oui, mais quand même, l'emblème, c'est la 5e symphonie. Et même certaines personnes qui n'ont jamais de leur vie été écoutées un orchestre, même ces personnes-là, je pense qu'elles connaissent au moins le thème le plus connu, papapapam, qui ouvre le premier mouvement de la 5e symphonie. Ça m'a frappé il y a quelque temps, j'étais dans le métro et il y avait 3 lycéennes, genre 16-17 ans, qui étaient assez volubiles, pour ne pas dire extrêmement brillantes, et qui se racontaient les potins de leur lycée. Et à un moment, il y en a une d'elles qui a dit aux deux autres « Et alors là, tu sais pas qui est-ce qui est entré dans la pièce ? Ta-ta-ta-ta, le proviseur. » Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit quand même, Beethoven, il a fait fort. Parce que c'est quand même un type qui est né il y a à peu près 250 ans, il invente un thème qui aujourd'hui est pour tout le monde l'incarnation de quelque chose entre le coup de théâtre, le suspense, l'attention, et pour citer Beethoven lui-même, c'est ainsi que le destin frappe à la porte. Nous en parlions d'ailleurs il y a quelques jours avec Corinna qui me disait « Oui, enfin, il ne fait pas que frapper à la porte, il entre carrément dans la pièce et c'est assez juste. » Mais tout ça pour vous dire que vraiment, il y a quelque chose de particulier avec cette symphonie. Et je me demande d'ailleurs comment est-ce que les gens à l'époque ont reçu cette symphonie la première fois qu'ils l'ont entendue. Souvenez-vous, le 22 décembre 1808. Un concert mythique de l'histoire de la musique, un concert assez long, un concert fleuve même, comme on les pratiquait de temps en temps à l'époque. Je crois que ça a duré plus de 4 heures. Et déjà, il y a eu la première partie symphonie pastorale, 4e concerto, un air vocal, un extrait de messe, puis c'est l'entracte. Et quand les gens reviennent, il y a une deuxième partie qui est tout aussi fournie, qui va se terminer avec la fantaisie pour piano, chœur et orchestre. Beethoven va improviser pendant au moins une demi-heure, mais il y a, pour la première fois, la première audition de la 5e symphonie. Et je pense que dans ce magnifique et grand théâtre, l'un des plus beaux théâtres de Vienne, le théâtre An der Wien, je pense que le public a ressenti la même chose que ce que nous venons de ressentir. Cette tension continue, cette tension qui habite d'un bout à l'autre la symphonie, cette tension presque dramatique avec ses ruptures, avec ses crescendo, avec ses coups de théâtre, avec, comment dire, cette sorte de condensation dramatique qui donne l'impression que c'est un concert, mais que c'est presque en même temps du théâtre auquel nous assistons. Ça, je crois que vraiment, c'est la première chose qu'on peut ressentir quand nous écoutons aujourd'hui la 5e symphonie. Seulement, il y a autre chose. En tout cas, dans ce premier mouvement, c'est l'incroyable économie de moyens dont fait preuve Beethoven, compositeur. En effet, le mouvement entier est construit à partir de ce motif unique de 4 notes, le fameux papapapam. 3 brèves, 1 longue. Et quand je dis 3 brèves, 1 longue, moi je fais encore partie de la génération des gens qui avaient appris le morse, et je pense tout de suite que ti-ti-ti-ta, 3 brèves, 1 longue, en morse, ça veut dire V, le V de la victoire. Et c'est pour ça que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, la BBC utilise ce premier motif du premier mouvement de Beethoven comme indicatif, parce que 3 brèves, 1 longue, c'est le V de la victoire. Et donc, avec ce motif, qu'il va répéter plus de 200 fois, il arrive à bâtir tout son premier mouvement. Alors, bien sûr, déjà, l'entrée qui est comme une sorte de gros titre, de bande-annonce, avec ce silence qui interrompt tout de suite après le flux musical. Personne n'avait eu cette idée de commencer une symphonie et de tout de suite interrompre, comme pour mieux saisir les gens. Comme on pourrait dire « écoutez-moi, écoutez-moi ». Et tout de suite après, nous prenons connaissance du premier thème, mais ce premier thème est entièrement construit avec le motif de 4 notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou en réponse, ou en cadence. Tout le thème n'est qu'une répétition variée de ce petit élément de départ avec lequel il va tout construire. Alors, il y a bien un moment où on se dit « Bon, ben ça y est, enfin, on n'a pas ta-ta-ta-tam, c'est le moment du second thème. » Vous savez que traditionnellement, dans un mouvement de sonate ou de symphonie, il y a plusieurs thèmes, et autant le premier est rythmique, nerveux, c'est un simple motif de quatre notes, autant le second thème permet, comment dire, un peu de détente. Nous écoutons charmé la mélodie se dérouler au violon, à la clarinette, à la flûte. Oui, mais à la vérité, le motif que je vais appeler le motif du destin, puisque Beethoven a dit c'est ainsi que le destin frappe à la porte, ce motif du destin, en fait, il ne le lâche pas. Il faut simplement écouter les violoncelles et les contrebasses. Les basses continuent de faire entendre le motif sous le second thème. On va réécouter ce second thème, mais vous allez maintenant plutôt écouter les basses de l'orchestre. On a presque envie de dire que même quand ça paraît heureux, quand ça paraît le bonheur, le destin veille. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. Autre chose, juste avant que ne soit donné ce thème a été annoncé. Annoncé par un motif qui est évidemment une variation de notre motif du destin. Un peu comme, vous savez, quelqu'un qui entrerait dans une pièce, dans un salon, il y aura un huissier qui ferait « Voici le second thème !» Mais ce sont les corps qui font l'annonce. Voici le second thème, donc le motif du destin, puis le second thème, mais en dessous, les basses continuent à faire le motif du destin, et à ce moment-là, la tension reprend, gigantesque crescendo, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, soutenu aux basses par ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, jusqu'à ce qu'on arrive aux cadences conclusives, les cadences parfaites, ces ponctuations qui en général veulent dire qu'une partie est terminée ou qu'un mouvement est terminé, et dans une symphonie habituelle, si je puis dire, on aurait... Voilà, ça c'est un enchaînement typique, une cadence parfaite, ça veut dire c'est fini. Mais dans cette symphonie, Beethoven va faire entendre, même la cadence comporte le fameux rythme du destin. On l'écoute à l'orchestre. Il faut que je vous dise un mot quand même sur le déroulement de tout le mouvement. C'est très simple en fait. Il y a quatre parties, c'est un quatre quarts pour ceux qui aiment bien ce gâteau, moi j'en raffole. Donc quatre parties, la première on la nomme l'exposition, c'est ce que vous avez entendu au tout début de la séance. C'est à peu près 1 minute 30 où nous prenons connaissance du premier thème, du second thème jusqu'à la cadence que nous venons d'entendre. La seconde partie, on la nomme développement. C'est le moment où le compositeur se saisit d'un des motifs entendus et il va le varier, le faire moduler, le transformer, le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le développement. Alors, ce développement s'ouvre par pa-pa-pa-pa deux fois de suite, enchaîné ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est le seul endroit du mouvement où on entend cet enchaînement avec les 8 coups rapprochés. Voilà, ça c'est bien l'esprit du développement. Prendre un élément et le modifier. Et peut-être le moment qui explique le mieux ce que c'est que la technique de développement, c'est vers la fin, au moment où Beethoven reprend l'annonce qu'on a entendue au corps tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vous allez dire oui, comme d'habitude, pa-pa-pa-pa. Pas tout à fait. Au lieu de 4 notes, il y a 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'annonce des corps, c'est 6 notes en tout. Donc, il s'en saisit à l'orchestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il le fait moduler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais au gré des modulations, au bout d'un moment, il perd la 6e note. Il n'y a plus que 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis maintenant, il ne va plus garder que 4, 5. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Jusqu'au moment où il ne va plus garder que le 5. 5, 5, 5. Tout ça alterné aux cordes et au vent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 qu'il fait alterner dans une nuance de plus en plus mystérieuse au groupe des cordes et au groupe des vents. Et là, on ne sait plus du tout où on est. Mais que va-t-il se passer ? Il n'y a plus que quelques accords, on dirait la respiration d'un mourant, et à ce moment-là, c'est la troisième partie, la réexposition. Alors ça, c'est normal, dans tout mouvement de symphonie qui se respecte, eh bien on réexpose, on réentend le début. Mais le génie de Beethoven, c'est d'arriver à faire de cet événement tout à fait prévisible un coup de théâtre, parce que la réexposition arrive un moment auquel on ne s'attend pas du tout. Nous sommes plongés dans ce mystère des accords alternés, des vents et des cordes, quand tout d'un coup arrive par surprise, c'est pour ça que je parle de coup de théâtre, la réexposition. On pourrait presque dire, avec Beethoven, même le prévisible devient imprévisible. Et donc c'est la réexposition, mais la réexposition va connaître des petites variantes, des petites différences par rapport à l'exposition. C'est que il s'est passé trop de choses, c'est trop tendu, c'est trop fort, nous sommes forcément modifiés par ce que nous venons de vivre, et nous ne pouvons pas revivre les mêmes événements, écouter la même musique exactement pareil. Tenez par exemple le premier thème. Le premier thème, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était les cordes dans le médium. Eh bien, Beethoven fait des petites variations. Il y a le basson qui fait une enluminure. Il rajoute des pizzicato, des violoncelles et des contrebasses. Et puis, il y a le hautbois. Le hautbois qui fait quelques tenues et qui termine tout seul par nous raconter qu'il se sent un peu triste, un peu solitaire. Hélène, ça va s'arranger. C'est pas si grave que ça. Nous en arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie du mouvement que nous nommerons la coda. Alors cette coda, eh bien, d'habitude, chez les compositeurs classiques, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, c'est juste pour terminer. C'est une sorte de formule conclusive, vous savez, comme quand on écrit une lettre et qu'on met à la fin « Veuillez agréer, cher monsieur, chère madame, mes sentiments les meilleurs » ou quelque chose comme ça. Eh bien là, pas du tout. Beethoven, et c'est encore une de ses innovations, décide que la coda va être non seulement une partie aussi importante que les trois autres parties, l'exposition, le développement et la réexposition, mais que même elle va représenter une sorte de point culminant du mouvement. Et cela va commencer avec quelque chose que j'adore, qui est une sorte de piétinement de tout l'orchestre. En effet, si vous enchaînez les pop-pop-pop-pom, ça donne pa 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 pa, et on a vraiment l'impression d'un piétinement de l'orchestre quand tout d'un coup l'orchestre pose en quelque sorte une question. D'habitude le mouvement de notre motif était descendant pa 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 pa. Or pour la première fois du mouvement, nous allons entendre ce motif mais ascendant vers l'aigu. comme quelqu'un qui dirait « J'ai une question ». On peut l'écouter, piétine-moi la question. Et l'orchestre, évidemment, va y répondre. Il va y répondre par un moment extraordinaire où l'orchestre est divisé en deux. D'un côté, il y a les violoncelles, les altos et les bassons qui font ta 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 ta. De l'autre, les violons qui s'élancent vers l'aigu ta da 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 da. Ce passage était le passage préféré d'Hector Berlioz. Hector Berlioz, vous savez, le compositeur français, l'auteur de la Symphonie Fantastique, qui a été le grand défenseur, le grand propagateur des symphonies de Beethoven en France. Et il disait que ce passage était pour lui son passage préféré. Il parlait de l'orchestre se divisant en deux unissons ardents comme deux ruisseaux de lave. Bah, nous écoutons les deux ruisseaux de lave de Monsieur Berlioz. Est presque terminé, quoi qu'il y ait une sorte de coda à la coda, un dernier coup de théâtre, avec la réexposition ultime de notre motif du destin, avec encore plus de puissance que d'habitude, d'abord parce qu'il est pris par vraiment tout l'orchestre, à ce qu'on appelle le tutti, c'est-à-dire quand tous les instruments jouent ensemble, du grave jusqu'à l'aigu, et surtout qu'il est répété 15 fois, ta 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 ta. Donc déjà, dernière affirmation du thème, et tout de suite après, plus rien. Le thème, mais alors vraiment, on l'entend à peine. Il est vraiment au bout de sa vie, quand tout d'un coup, l'orchestre conclut par les fameuses cadences pam 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 pam. Donc un double coup de théâtre pour terminer, et ça, je vous laisse le découvrir maintenant, puisque je vous propose d'écouter d'un bout à l'autre les quatre parties du premier mouvement jusqu'à l'ultime cadence finale, premier mouvement de la 5e symphonie. Merci beaucoup à l'orchestre, merci beaucoup Corinna. En écoutant cette tension dramatique tellement concentrée de ce premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, m'est revenue en mémoire une anecdote, c'est que le jeune prodige Mendelssohn, hein, compositeur entre autres de la symphonie italienne ou de la marche nuptiale, donc ce jeune prodige était allé voir en 1830 le vieux Goethe. Et l'immense écrivain allemand, écoutant Mendelssohn lui faire découvrir au piano, hein, réduit au piano, le premier mouvement de cette 5e symphonie, aurait déclaré « C'est très grand, c'est absolument fou, j'ai eu peur que ma maison ne s'écroule. » Et à un moment aussi, j'ai imaginé que tout allait s'écrouler, tellement la musique avait cette puissance, cette intensité. Mais je voudrais maintenant en passer au second mouvement de la symphonie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une symphonie c'est en plusieurs mouvements. Chez Beethoven, à une exception près, toujours en quatre mouvements. Il faut bien comprendre que ces quatre mouvements sont à la fois quatre moments différents, mais quatre moments unis par un même élan créateur. Certaines personnes sont parfois étonnées quand elles viennent au concert pour la première fois d'une œuvre en plusieurs mouvements. C'est vrai que ce n'est pas le cas, par exemple, des danses ou des chansons, mais il faut imaginer cela comme une pièce de théâtre en plusieurs actes ou un roman en plusieurs chapitres. Chaque moment est différent, mais c'est un moment d'une même vie, en quelque sorte, comme on raconterait un autre épisode de la vie de quelqu'un. Et le second mouvement, traditionnellement, c'est plutôt un moment introspectif, c'est le moment de la détente, de l'émotion, du rêve. Et ça part très bien avec le magnifique premier thème qui est si célèbre, avec son très bel unisson des violoncelles et des altos qui donne une sonorité si suave. Moi, je l'appelle le thème double crème.
Thank you.
Quelle beauté, mais en l'écoutant, j'avais l'impression, comment dire, que nous avions quitté le théâtral, le général, la foule, pour quelque chose de plus intime, de plus personnel, un peu comme si, un moment, dans une fête ou dans une foule, on prenait quelqu'un à part, on s'assoit à une table et on lui dise les yeux dans les yeux, « Bon alors, comment est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il vient de nous répondre avec ses sonorités tellement belles. Le thème a été incarné d'abord par cette union à l'unisson des violoncelles et des altos. Et puis tout de suite après, nous avons écouté les groupes d'orchestre qui se répondent. Mais il y a une autre chose qui me frappe. C'est que ce thème est quand même un thème qui n'est pas fait comme d'habitude. De toute façon, chez Beethoven, rien n'est jamais fait comme d'habitude. En effet, le thème fait en tout 22 mesures. Et seulement 8 nous ont permis d'entendre ce thème très mélodique joué par les violoncelles et les altos. Et après, nous avons eu 14 mesures, c'est long 14 mesures, d'une sorte de reprise en écho de la petite formule finale, comme quoi Beethoven aime toujours autant les petits motifs, les noyaux rythmiques, j'appelle ça. Vous savez, cette formule finale qui fait « pam, pa, pa, pa ». J'appelle ça une politesse, vous savez, comme on dit « merci beaucoup ». Et pendant 14 mesures, l'orchestre s'est échangé des « merci beaucoup ». On peut réécouter ces 14 mesures de politesse ? Après le premier thème, un second thème que j'appelle le jumeau rebelle. Pourquoi le jumeau rebelle ? Eh bien parce que il commence un peu de la même manière que le premier, avec ce rythme que vous venez d'entendre, pam, 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 dans la douceur, clarinette et basson, sauf qu'il va s'exalter, prendre de la force et tout d'un coup éclater d'une manière presque guerrière, alors que l'autre était quand même très tranquille, très gentil, avec son double crème et ses formules de politesse. Celui-là, il se contient un peu au début et très vite, il éclate. Second thème du mouvement. Je dois vous dire que certaines personnes considèrent qu'il s'agit du même thème. C'est vrai, le premier commence par... Et le deuxième par... Il y a un air de famille. C'est pour ça que pour moi, je les appelle les thèmes jumeaux. Sauf que le deuxième ne peut pas s'empêcher de laisser aller son tempérament plus violent, plus guerrier même, et c'est pour ça que je le nomme le jumeau rebelle. Et pendant tout le mouvement, Beethoven va alterner le premier et le deuxième thème, les deux jumeaux. Oui, mais le deuxième, à chaque fois qu'il intervient, trois fois en tout, c'est toujours avec ce même caractère instable, si on peut dire. Tandis que le premier thème, à chaque fois qu'il revient, il donne lieu à une variation, il évolue, il se modifie. Et cette idée de variation alternée est absolument merveilleuse, notamment la première fois que ça va revenir, nous aurons cette sonorité toujours de violoncelle et d'alto à l'unisson, mais au lieu d'avoir... Nous aurons un flux de double croche. Et puis, un peu plus loin, encore plus rapide, le thème, au lieu de faire se met à faire des triples croches. Et ces doubles croches, pour moi, c'est comme un ruisseau qui naît d'abord au violoncelle et aux altos, comme d'habitude, et puis il se répand dans l'orchestre, il est repris par les violons, le ruisseau devient comme une rivière, et puis petit à petit, il réveille tout l'orchestre, il devient plus tempétueux, les basses s'en emparent, et ruisseau, rivière, maintenant il est devenu torrent. Donc je vous propose d'écouter ces variations enchaînées de cette eau qui grandit et qui emporte tout l'orchestre. Il y a encore deux variations sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Il y en a une qui est paradoxale parce que c'est la variation en mineur. En effet, le thème tel que nous l'avons écouté jusqu'à maintenant est dans le mode majeur. Les deux thèmes d'ailleurs, le thème double crème comme le jumeau rebelle. Et pour la première fois, Beethoven décide d'utiliser le mode mineur, mais vous allez voir, à cause de son écriture rythmique et de son orchestration, c'est un mineur, mais pas du tout un mineur triste, comme on dit souvent que le mode mineur est plus triste. Non, c'est un mineur assez joyeux. Vous en souviendrez, hein ? Si vous entendez quelqu'un vous dire « Ah oui, le mode mineur, c'est quand c'est triste », vous direz « Ah non, pas dans le second mouvement de la cinquième symphonie ». Le majeur revient, et c'est la dernière variation, la plus lumineuse. On a l'impression que le soleil revient. Moi, je l'appelle la variation soleil. Il faut quand même que je vous dise un petit mot de la coda, car il y aura une coda, et comme vous l'avez compris chez Beethoven, la coda, c'est important. J'ai l'impression que c'est le moment où tous les instruments viennent nous dire au revoir les uns après les autres. Toujours ce petit motif rythmique qui intéresse tant Beethoven, hein, pam, pam, pam. C'est comme s'il nous disait au revoir, au revoir. Alors d'abord le basson, et puis des petites appoggiatures du hautbois, et puis ce moment magnifique avec un très bel accord des cordes, et les clarinettes et les bassons qui font... Les violons, au revoir, second violon, au revoir, les basses, au revoir, au revoir, au revoir. Et comme d'habitude, Beethoven ne peut pas s'empêcher de faire un dernier contraste de nuances, un petit coup de forte et un petit coup de piano pour une dernière fois vérifier que tout le monde suit bien la symphonie. Alors, je vous propose d'écouter maintenant d'un bout à l'autre ce second mouvement avec ses merveilleuses variations sur notre thème double crème, alterné avec le jumeau rebelle, et considérez bien que, au-delà de la technique, au-delà de tout ce que je viens de vous montrer, il y a comme le déroulé d'un chemin intérieur. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Au fond, ce thème initial, Beethoven s'en saisit et nous dit, en quelque sorte, je vais vous en montrer tous les développements, tout le potentiel, toute sa richesse, comme si on suivait pas à pas le chemin de vie d'un être humain. Second mouvement de la cinquième symphonie. ...
Thank you.
Merveilleux mouvement lent de la symphonie en ut mineure de Beethoven. Ainsi s'achève la première partie de notre clé de l'orchestre consacrée à la 5e symphonie avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Corinna Niemeyer. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour explorer à leur tour les 3e et 4e mouvements de cette inépuisable symphonie, toujours accompagnée des talentueux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Je remercie chaleureusement Cécile Kaufmann-Nègre, responsable de la programmation éducative et culturelle de l'orchestre, pour son inlassable dévouement à la transmission de la musique classique, ainsi que Théo Friconeau, qui m'a fidèlement accompagné tout au long de la préparation de cette 31e clé de l'orchestre. Musicien metteur en onde, Paul Malinowski, directeur du son, Yves Baudry, assisté d'Éric Carrère, Lucas de Rode et Kevin Delcourt. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld. Chef opérateur du son, Cédric Chatelus. À la semaine prochaine.